Micro Méga, Patrick Chompré.
L'actualité scientifique sur RFI, c'est la suite. Je vous rappelle que nous parlerons tout à l'heure des coraux dans le monde entier, et tout particulièrement autour des îles de l'océan Pacifique, avec notre invitée Pascal Chabanet, qui est chercheuse et plongeuse à l'IRD. Mais tout de suite, avec vous, Caroline Achowski, le combat contre la grippe, contre les grippes. Micro-méga. La grippe sous toutes ses formes, qui se trouve liée à notre histoire et à notre actualité en ce moment. Que savons-nous de ces virus? Où en est la recherche? Eh bien, nous sommes, Caroline, avec le professeur Claude Hanoun. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Institut Pasteur, expert à l'OMS sur les maladies à virus, et donc auteur de ce livre, La grippe ennemie intime, paru aux éditions Ballan. Et Caroline, comme le titre de l'ouvrage l'indique, vous nous dites que c'est une affaire personnelle pour Claude Hanoun.
Oui, c'est même l'affaire de toute une vie de chercheur, bien sûr, mais pas seulement, puisque ce virus dont vous avez été le premier en France à isoler une souche, auquel vous avez consacré la plupart de vos travaux. Ce virus de la grippe qui s'est même chargé de vous rattraper, si j'ose dire, on le verra à chaque fois que vous le délaissiez pour d'autres virus plus exotiques. Eh bien, ce virus de la grippe, c'est d'abord pour vous une affaire, ou plutôt une histoire de famille, qui remonte même avant votre naissance et dont vous avez hérité en quelque sorte, en même temps que votre deuxième prénom, Marc, Claude Hanoun.
Oui, en effet. En effet, en 1918, la famille de mon père comptait 6 garçons. 5 sont allés à la guerre et en sont venus intacts, ou presque. Et le 6e, qui était trop jeune pour aller à la guerre, est mort en 1918 de la grippe espagnole. Donc c'est une famille qui n'a pas été touchée par la guerre, mais qui a été touchée par la grippe, contrairement à d'autres familles qui avaient été touchées très largement par la guerre.
Alors, restons un instant sur cette grippe de 1918. Vous dites dans votre livre, c'est l'épisode infectieux le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité, carrément.
Oui, en quelques mois, il a fait, on ne sait pas si c'est 40, 50, certains disent 100 millions de morts, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup plus que la guerre, et beaucoup plus que n'importe quelle épidémie de n'importe quelle autre maladie dans un temps aussi serré. Il y a des maladies comme la peste qui en 20 ans ou en 30 ans ont fait plus de morts, mais en 6 mois, c'est vraiment l'épisode le plus important de l'humanité, et curieusement, ceci avec une maladie, la grippe, qui n'a pas tellement mauvaise réputation, si j'ose parler comme ça, puisque on dit, ah tiens, j'ai éternué, j'ai la grippe, je n'irai pas au travail demain parce que j'ai la grippe, et donc une maladie qui est banale.
Et qui pourtant là a contaminé un humain sur deux. On avait déjà entendu parler de la grippe avant, il y avait eu d'autres épidémies
Il y avait eu d'autres épidémies, mais elles n'étaient pas documentées de la même façon. Plus on avance dans le temps, et 1918, on était déjà dans une ère moderne, plus on avance en connaissance, plus on peut recenser ce genre d'événements. Alors, il y a eu la grippe de Thucydide 341 ans avant Jésus-Christ, c'était peut-être une pandémie de grippe, certains l'affirment. On n'en est pas sûr parce qu'on ne peut pas remonter, on ne peut pas retrouver les traces. On peut retrouver les traces longtemps après, mais pas 25 siècles après. Donc on ne sait pas s'il y en a eu d'autres aussi graves dans l'histoire de l'humanité. Mais c'est possible.
Mais qu'est-ce que c'est alors qu'une grippe? Puisque vous disiez à l'instant, ça paraît être une maladie anodine, c'est finalement l'épidémie qui a tué le plus rapidement en 18.
C'est un virus qui change tout le temps. C'est un virus, tout le temps, il change pas tellement vite, en un an ou deux, mais il change. Et quand l'humanité a été confrontée à un virus, la nature humaine est telle qu'on se défend, on élabore des défenses. Une population peut être immunisée par une épidémie qui est passée avant, les survivants sont immunisés. Donc on appelle ça l'immunité collective. Maintenant, si le virus change légèrement et s'il arrive par ce changement à échapper à l'immunité, il lui faut quelque temps pour ça. Mais il peut redonner une nouvelle épidémie sous une forme légèrement différente. Et les virus de grippe savent faire ça, et ils sont plusieurs, et ils se remplacent, quelquefois ils reviennent, quelquefois ils changent, puis ils disparaissent. Donc nous sommes en ce moment à une période où il y a ce qu'on appelle la grippe saisonnière, qui comprend 3 virus, un B qui est moins important, mais 2A, un H1N1, un H3N2, ça sont des virus saisonniers qui reviennent chaque année depuis 10, 20 ans. Et puis il y en a un nouveau, un petit nouveau qui vient d'apparaître, qui est un autre H1N1, pas le même que le premier, et qui lui trouve devant lui une population entièrement vierge. Heureusement pour nous, jusqu'à présent, j'insiste sur jusqu'à présent, heureusement pour nous, il est très contagieux, mais il n'est pas très virulent, pas très pathogène. Il ne donne pas beaucoup de maladies graves, il ne donne pas beaucoup de maladies mortelles, mais il se répand très vite. Et il a battu un record, il a envahi le monde entier en 2 mois, alors que le record était tenu par 1957, où le monde avait été envahi en 6 mois.
On va en reparler, bien sûr, de ce virus. Simplement, une précision, c'est bien le moment de le faire. H1N1, H2N2, vous nous rappelez à quoi ça fait référence, ces 2 lettres, H et N?
Alors, c'est la description de certains des composants du virus. C'est, si vous voulez, si on compare à une voiture, le nombre de chevaux et le nombre de roues, choses comme ça. Donc, ce sont des caractéristiques techniques. En fait, ça représente, pour être alors plus scientifique, le type de 2 des protéines de surface du virus. Le virus est couvert, il y a un certain nombre de protéines. Il y en a 2 qui sont importantes, qui s'appellent l'hémagglutinine, H, et la neuraminidase, N. H1, N1, ça veut dire l'hémagglutinine numéro 1, mais il y a aussi la numéro 2, la numéro 3, il y en a 16 différentes. Et puis la neuraminidase, N, il y en a 9. Donc ça, c'est le numéro 1 des H, le numéro 1 des N. On a eu, il n'y a pas longtemps, le numéro 5 des H et le numéro 1 des N. Il y a en circulation le numéro 3 des H et le numéro 2 des N. Donc tous ces virus, ils ont des noms. C'est assez simple.
Alors Claude Hanoun, vous êtes un spécialiste du virus de la grippe, on peut le dire comme ça. Votre parcours, on va le voir au fur et à mesure, à chaque fois, comment dire, rejoint celui de la connaissance de ce virus. Notamment en 1948, vous avez identifié la souche du virus la première fois, hein, que
la
ça se passait en France.
La première fois en France.
Vous êtes tombé dans ce virus de la grippe, on le comprend un peu, pas tout à fait par hasard, mais vous faisiez des études de chimie et c'est quand même presque par hasard qu'un an auparavant, donc je crois que c'est en 1947, vous êtes arrivé à l'Institut Pasteur pour travailler sur la grippe.
Oui, je suis entré à l'Institut Pasteur en 1945 avec une licence de sciences, biologie, chimie, enfin, j'étais donc chimiste et biologiste. Et pendant 2 ans, j'ai fait mes classes à l'Institut Pasteur, j'ai appris les techniques de la microbiologie, et c'était le meilleur endroit pour le faire, mais la virologie n'existait pas. Personne ne travaillait sur les virus à cette époque précise. Et en 1947, donc après 2 ans de formation de base, je suis allé voir mon patron et je lui ai dit, maintenant affectez-moi à un programme de recherche, puisque je veux faire une thèse de science. Et il m'a conduit quelque part et il m'a dit, vous allez aller là, c'était la grippe. Donc c'est tout à fait par hasard, à cause d'une porte ouverte, que je suis entré dans un laboratoire qui venait de se créer, qui lui venait de créer, et qui s'appelait le laboratoire de la grippe, où je suis resté de nombreuses années
après. Est-ce que c'est là que vous avez rencontré ce professeur incroyable dont vous parlez dans votre livre et qui n'hésitait pas à s'inoculer le virus de la grippe?
Oui, c'est lui. Quand je dis mon patron, c'est lui qu'il s'agissait. En fait, en 1918, on ne connaissait pas le virus de la grippe, mais on ne savait pas à quoi était dû la grippe. Non, on ne savait pas que c'était un virus. On pensait même que c'était une bactérie. Il y a une bactérie qui s'appelle Hemophilus influenzae, l'hémophile de la grippe, qui avait été découvert par Pfeiffer longtemps avant, et on pensait que c'était la cause de la grippe. En 1918, on s'est aperçu que c'était pas ça, parce qu'il était bien présent à l'épidémie d'avant, mais là c'était plus lui, c'était du staphylocoque. On a compris que c'était une complication et non le germe responsable. Et mon patron Dujarric de la Rivière, qui était aux armées et qui voyait des soldats mourir de grippe, a fait une série d'expériences où il a montré que l'agent de la grippe était filtrant, c'est-à-dire qu'il était tout petit et que ça correspondait à ce qu'on commençait à appeler les virus. Mais les virus, on les connaissait depuis 10 ans, pas plus, et c'était pas encore tellement défini. Il a fallu attendre 30 ans de plus pour que la définition des virus apparaisse.
Mais il l'a montré avec un courage incroyable.
Ah oui, c'est inoculé à lui-même. Il a filtré des crachats de gens qui mouraient de grippe et s'est inoculé sous la peau. Il fallait quand même avoir un certain...
Il faut ça pour
faire ça
à la fois.
Moi, je dois confesser que je n'ai jamais fait de choses aussi courageuses et aussi folles.
Alors justement, aussi folle, je dis ça parce que le mot même de grippe, influenza, c'est un mot qui est un peu particulier. Il y a beaucoup de manières de parler qui font penser à la grippe. Quand on dit on attrape froid, c'est en fait lié à ce genre de maladie-là.
Grippe, ça veut dire attraper, agripper. La grippe, c'est une maladie qui vous agrippe.
Tout de suite, rapidement.
Parce que le signe le plus clair, c'est le début brutal. Vous êtes très bien et tout d'un coup, vous sentez un frisson et vous dites, je suis à plat, je suis fatigué, j'ai mal partout, j'ai des courbatures. C'est ça. Donc, ça vous agrippe.
Là, ça y est.
Agrippé. Et l'autre terme qui a prévalu dans beaucoup d'autres pays, aussi bien en italien qu'en anglais, c'est influenza. Et influenza est un mot italien qui veut dire influence. Et ça venait au XVIIe siècle. On avait appelé cette maladie l'influenza di freddo. L'influence du froid. Parce qu'on avait remarqué que c'était une maladie qui n'arrivait que dans les temps froids. Et alors là, ça nous amène, si vous voulez bien, on va sauter quelques siècles, on arrive à aujourd'hui. Ce qui est un peu inquiétant aujourd'hui, c'est que nous sommes en période épidémique de grippe et il ne fait pas froid. C'est-à-dire que ce n'est pas la saison de la grippe.
Donc vous vous dites, qu'est-ce qui va se passer quand il va faire froid, c'est ça ?
Évidemment. Ouais. S'il faisait froid aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait ? Là, aujourd'hui, la semaine dernière, il y a eu 165 000 cas de grippe, d'après les derniers chiffres d'hier. Et nous sommes dans une période très défavorable au virus. Puisque le virus se plaît dans les climats froids, parce qu'il est inactivé dans l'air quand il fait un peu trop chaud. Il est bien conservé quand il fait froid. Quand il fait chaud, on n'est pas à l'intérieur, on vit moins en milieu confiné, on se contamine moins, enfin, etc. Il y a tout un ensemble de raisons pour lesquelles c'est un virus qui se plaît au froid.
Est-ce que tout ce qui fait justement qu'un virus est contagieux ou pas, c'est ça uniquement, ou bien est-ce qu'il y a d'autres choses intrinsèques au virus ?
Non, pas uniquement, il y a des choses intrinsèques au virus aussi, mais la contagiosité est influencée par le climat. Il est détruit par la lumière aussi. Donc, ce qui est frappant, c'est que le 24 avril, quand il a commencé à se manifester au Mexique, il faisait 30 degrés au Mexique. Et ça, c'est absolument incompréhensible qu'une épidémie de grippe commence, que le virus se maintienne avec 30 degrés. On appelle ça une circulation endémique. Il se maintient par des passages de personne à personne, mais sans éclater. Mais là, il a éclaté quelque chose à un moment où il n'aurait rien dû éclater. Donc, c'est un virus qui n'est pas tout à fait comme les précédents.
Parce que justement, vous le rappelez dans les autres épisodes pandémiques de l'histoire, notamment en 57, où il y a eu une très très forte pandémie, 3 millions de morts quand même dans le monde, virus très contagieux, c'était en hiver et fortement pathogène à l'époque.
Oui, et ça avait commencé un tout petit peu avant, sans gravité, c'est pendant l'hiver que c'est devenu grave.
Alors Claude Hanoun, on va se replonger ensemble en 1957, ce qui s'est passé avec donc les actualités qu'on entendait à la radio à ce moment-là, et puis une ancienne collègue à vous qui est interviewée en 1957 sur cette épidémie de grippe. Écoutez.
Les dépêches concernant la grippe asiatique continuent d'être nombreuses et diverses.
L'épidémie de grippe continue à s'étendre en France et en Europe.
Quelques cas en Europe sont apparus d'abord en Hollande et dans différents points, aussi en Angleterre, en Italie.
En Belgique, un Bruxellois sur cinq est grippé. En Italie, l'épidémie est particulièrement sévère dans le Piémont.
Tout le personnel des bases américaines en Angleterre va être vacciné.
En Espagne, 300 000 personnes sont alitées à Madrid.
Maintenant, nous avons quelques cas en France, quelques petits foyers qui ne paraissent pas très étendus.
Les progrès ont été notables depuis 48 heures, surtout dans le sud-est de la France. À Toulon, le tiers des effectifs... Le tiers des effectifs de plusieurs unités de la marine est alité.
Alors, pour rassurer peut-être les personnes qui nous entendent, ça peut être utile de leur rappeler quels sont les symptômes de cette grippe asiatique, ne serait-ce que pour leur prouver qu'ils ne l'ont pas.
Oui, eh bien cette grippe a l'allure d'une grippe ordinaire, c'est-à-dire qu'elle prend brutalement, avec frissons, maux de tête, hein, courbature, température assez élevée. Du reste, elle évolue très rapidement, en 2 ou 3 jours, et il y a très peu de complications. Les cas de mortalité sont extrêmement rares.
Maintenant, quelle est l'attitude à avoir à ce moment ?
Eh bien, à ce moment-là, quand on se trouve grippé, il faut rentrer chez soi, se coucher et prendre une boisson alcoolisée, ce n'est pas une mauvaise chose.
Un grog.
Un grog, oui. Particulièrement du rhum, ça n'est pas une mauvaise chose. Et rester chez soi pendant 2 ou 3 jours. Non, rester alité surtout. Et si la fièvre persistait, par exemple, au bout de 3 ou 4 jours, il faut demander son médecin, parce qu'en cas de complication, les antibiotiques sont très actifs et là, on peut enrayer justement les complications secondaires.
Vous savez qu'on a parlé de vaccin.
Oui, nous préparons un vaccin spécifique, n'est-ce pas, qui est préparé à partir de la souche en cause. C'est la raison pour laquelle ce vaccin n'est pas encore sorti, parce qu'il a fallu faire des essais et nous ne pouvons évidemment pas promettre, n'est-ce pas, des centaines de milliers de doses pour pouvoir protéger la population. Mais il est prévu justement qu'on en donnera dans des cas particuliers, n'est-ce pas ?
Particulièrement
les personnes qui sont en contact avec les malades, les personnes qui ont une activité spéciale pour la vie de la nation, par exemple.
Oui, bien entendu, de façon à éviter de transporter le germe.
C'est cela.
Eh bien, je vous remercie, mademoiselle Catherine.
Je vous en prie.
Micro-méga sur RFI et nous sommes avec le professeur Claude Hanoun. Nous parlons de la grippe dans tous ses états. Et donc là, votre collègue de l'Institut Pasteur, Geneviève Cataigne.
Oui, que j'ai bien connu. Et ce qu'elle dit ressemble assez à ce qu'on dit aujourd'hui.
Avec des nuances quand même.
Sauf une chose, l'alcool. Elle dit, prenez une petite boisson alcoolisée, etc. Oui. Vous pourriez dire ça aujourd'hui ?
Ce qu'il y a, c'est qu'on se sent moins malade.
Quand on se sent moins malade.
On n'est pas moins malade, mais on se sent moins malade.
D'accord.
Oui. Donc ça peut avoir un petit effet psychologique, mais ça ne soigne pas du tout.
Bon. Alors à Pasteur, justement, on le disait juste avant, Claude Hanoun, vous avez vous-même, en isolant la souche du virus de la grippe, été à l'origine du premier vaccin contre la grippe en France. Aujourd'hui, la technique n'a pas tellement évolué. Finalement, on arrive toujours à fabriquer des vaccins pour la grippe saisonnière, c'est-à-dire sur une certaine souche, mais le vaccin contre toutes les grippes...
Non, il y a beaucoup de similitudes entre le vaccin sur lequel je travaillais en 1949-50, les première dose de vaccin produite et le vaccin d'aujourd'hui. Il y a des similitudes, c'est le même substrat, on fait ça sur des embryons de poulet. La purification, en revanche, a fait des progrès parce qu'il y a eu des progrès techniques. On a maintenant des meilleurs outils, des centrifugeuses par exemple qui vont plus vite et qui permettent de mieux purifier le vaccin. Donc le vaccin d'aujourd'hui est beaucoup mieux purifié qu'il ne l'était à l'époque, mais le principe général est tout à fait le même.
Mais quelle est votre position aujourd'hui? Parce que les vaccins, ça fait polémique entre les vaccins pour la grippe saisonnière, se faire vacciner ou non contre cette nouvelle épisode de grippe qui arrive.
Alors pour la grippe saisonnière déjà, la grippe saisonnière elle est toujours là. Nous sommes au fin du mois de septembre, c'est le moment où on vaccine contre la grippe saisonnière.
Même s'il y a un autre virus de grippe plus virulent qui circule et que ça pourrait peut-être
jusqu'à ce qu'on ait bien vu si les virus saisonniers ont disparu ou n'ont pas disparu, il faut continuer la vaccination. Il se peut que l'année prochaine, ayant constaté que un des trois virus qui sont dans le vaccin ayant disparu, on puisse le remplacer par exemple par le H1N1 mexicain. Mais c'est une hypothèse. Il se peut que tous les virus coexistent. On a vu dans l'histoire des épidémies tous les cas de figure. On a vu en 1957 la grippe asiatique dont il était question il y a un instant, on a vu qu'elle a remplacé le H1N1 d'avant. Subitement, le H1N1 a disparu et la H2N2 s'est implantée. Donc on a oublié le H1N1. Il est revenu 20 ans après, mais là il avait disparu. On a vu en 1977 justement le H1N1 revenir. Il est revenu en 77, mais il n'a pas remplacé l'autre. Il s'est surajouté et il y a eu deux virus A en circulation. Donc le virus H1N1 actuel, il peut remplacer les autres ou un des autres ou se surajouter aux autres. Donc le vaccin de l'année prochaine, pour l'instant, nous n'en connaissons pas la formule. Il faudra la réviser au mois de février prochain quand on aura eu l'expérience de l'hiver. Alors quant à la vaccination avec le vaccin H1N1, pandémique dont il est question aujourd'hui, c'est tout à fait différent. C'est un vaccin qui est nouveau dans la souche qu'il contient, mais pas dans la préparation. C'est exactement le même vaccin qu'avant. On a changé la souche. Donc tout ce qu'on savait de ce vaccin avant est valable pour celui-là. On vérifie qu'il n'a pas de caractéristiques différentes. C'est un vaccin inactivé. C'est un vaccin qui est fractionné, qui donne peu de réactions secondaires. Donc c'est la même chose. Il y a deux choses qui changent et qui font peut-être problème. C'est que d'abord, c'est un virus nouveau. Donc l'immunisation est un peu plus difficile. Et jusqu'à... Il y a très peu de temps, on pensait qu'il fallait deux injections pour établir l'immunité. C'est ce qu'on fait chez les enfants avec la grippe saisonnière. On les vaccine la première fois en deux fois, puis après on les vaccine une seule fois par an. Donc on n'est pas encore sûr. Il y a de nouvelles données qui montrent que peut-être qu'une injection sera suffisante. Nous le saurons avant la fin octobre quand le vaccin va arriver. Donc pour qu'il soit meilleur ce vaccin, pour le rendre plus puissant, dans certains vaccins, on met des adjuvants.
Et c'est ça qui pose problème.
La fameuse adjuvant.
Je ne sais pas si ça pose problème.
Ça pose question en tout cas. Les gens posent des questions.
Je vais répondre à quelques-unes de ces questions. Les adjuvants, c'est fait pour stimuler l'immunité. Ce sont des substances qui provoquent une réaction cellulaire, une légère inflammation, qui font arriver des cellules. L'immunité, elle est produite par des cellules de notre organisme, des cellules sanguines, comme les lymphocytes ou des descendants des lymphocytes. Donc, l'adjuvant mobilise un petit peu, l'adjuvant annonce, attention, il se passe quelque chose, venez, les cellules arrivent et elles se mettent à produire des adjuvants. Donc, ça marche mieux quand il y a des adjuvants. Alors, les adjuvants, il y en a eu plusieurs qui sont succédés. Il y a eu d'abord l'hydroxyde d'aluminium, c'est-à-dire un dépôt minéral très fin, une poudre très fine qu'on injecte, qui cause un petit nodule d'inflammation, qui est la raison pour laquelle l'immunité est améliorée. Alors, il y a quelques inconvénients. On n'a jamais démontré de façon absolument claire qu'elle était responsable, cet hydroxyde d'aluminium, de maladies graves. En revanche, ce qu'on sait, c'est que ce dépôt persiste. Et c'est quand même pas très agréable. Donc, si on peut éviter, on a donc, au bout de quelques temps, pour le vaccin grippe, abandonné l'aluminium. Et on s'est accommodé d'un vaccin un peu moins puissant. Le deuxième adjuvant, qui est plus nouveau, c'est un adjuvant huileux. Alors là, c'est une autre affaire. On introduit une émulsion contenant un petit peu d'huile avec le vaccin. C'est ça qui provoque la stimulation immunologique améliorée. Et la substance qu'on utilise s'appelle le squalène. Et le squalène, contrairement à ce que certains pensent, c'est pas un produit dangereux. Il y en a 7 grammes par litre dans l'huile d'olive. Il y en a 20 grammes par litre dans l'huile de foie de requin. C'est pour ça qu'on l'appelle squalène, parce qu'on l'extrait du foie de requin. Et c'est un produit qui est naturel. Il y en a dans le corps humain normalement. Il y en a dans les articulations. Il y en a partout. Et il est métabolisé, c'est-à-dire qu'il est digéré aussitôt. On injecte le produit, il aide à l'immunité et il est ensuite digéré par les cellules, il disparaît.
Donc pas de danger selon vous ?
Alors, il n'y a pas de danger sur le principe et sur l'observation de ce qui s'est fait avec ces vaccins. On l'a déjà utilisé sur au moins 30 millions de personnes. Il y a un vaccin qui s'appelle Fluad, qui n'est pas utilisé en France encore, mais qui est dans d'autres pays. 28 millions de gens ont été vaccinés. On n'a pas remarqué d'effets anormaux. En conséquence, c'est un produit qui, a priori, n'est pas dangereux. Les essais cliniques qui ont déjà été faits ou qui sont en cours ont été acceptés par l'OMS, par l'Organisation Européenne de Santé et est en cours d'examen en France. Donc moi, ça ne me pose pas de problème et je recevrai volontiers quand il sera prêt le vaccin adjuvé au squalène.
Alors vous, c'est bien parce que vous avez vu qu'il y a quand même un tiers des personnels de santé qui sont en premier sur la liste, hein, qui n'ont pas tellement envie de se faire vacciner. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est une statistique intéressante. Vous dites qu'un tiers des personnels de santé ne veut pas se faire vacciner.
Ils ne sont pas très chauds, quoi.
Ils ne sont pas très chauds. Vous savez combien se font vacciner aujourd'hui avec le vaccin saisonnier? Moins de 30%. Mm-hmm. Donc si maintenant il n'y en a plus que 30% qui ne veulent pas, ça veut dire que 70% vont se faire vacciner. C'est une bonne nouvelle.
Donc c'est un progrès, bon.
Ah oui.
Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à parler? Les vaccins contre ces virus de la grippe, il y a maintenant des antiviraux qui ont été découverts. Alors, racontez-nous quand même comment le fameux Tamiflu dont on parle tant.
Alors, il y a aussi les mesures de protection, genre isolement, masque, etc. Mais alors, venons-en au Tamiflu, c'est un sujet extrêmement intéressant. C'est une des très belles découvertes de ces derniers temps. C'est une molécule qui bloque un des éléments du virus, le N, justement, le N de H1N1. C'est la neuramidase, une enzyme. Elle a un site d'action. Ce site d'action peut être bloqué par une molécule. Enfin, on connaît la taille et la forme du site d'action grâce à des travaux que je raconte dans mon livre qui ont consisté à cristalliser la neuramidase. Et cette neuramidase, elle a été cristallisée. C'est difficile de faire cristalliser une molécule de protéine comme ça. Elle a été cristallisée en particulier au cours d'expériences dans l'espace, dans la navette spatiale. On a embarqué une expérience. On a donc cristallisé dans l'espace la neuraminidase. Ensuite, on a pu, avec des cristaux de neuraminidase, en connaître la structure par examen en diffraction en rayon X. Et on a pu mesurer exactement la forme de la poche qui est le site actif. Et les chimistes ont ensuite créé une molécule qui s'adapte dans cette poche comme si on mettait du ciment dans une serrure. Et une fois qu'on a mis du ciment dans la serrure et que le ciment tient bien, la molécule était faite pour bien tenir, on ne peut plus mettre la clé. Et le virus ne peut plus se servir de cette enzyme. Et le virus est complètement arrêté.
Alors c'est formidable.
C'est une découverte assez extraordinaire.
Oui, sauf qu'en même temps, est-ce que je me trompe si je dis que quand on prend ça, ça arrête la grippe, mais qu'on n'est pas du tout immunisé contre cette grippe qu'on a pourtant attrapée?
D'abord, si ça l'arrête, c'est déjà quand même quelque chose.
Formidable.
C'est pas mal.
Mais à condition
que ce soit tôt. Parce que si vous attendez 3 jours, tout est déjà fait. Le virus est en train de disparaître. Vous l'arrêtez, ça ne change rien. Les lésions sont en cours de développement. Si on le fait très tôt, ça coupe la grippe. On le fait très tôt, ça veut dire que le virus a déjà commencé à se multiplier. Or, les expériences ont montré que quand on traite et qu'on arrête la maladie, l'immunité s'installe quand même parce qu'il y a suffisamment de virus pour créer l'immunité. Donc, si on guérit quelqu'un, non seulement on le guérit, mais on le laisse comme si on l'avait vacciné. Même mieux que si on l'avait vacciné parce que l'infection protège mieux que la vaccination.
Alors docteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Donner du Tamiflu à tout le monde?
Non, parce que ce serait un peu gaspiller un produit qui n'est quand même pas bon marché.
Et qui peut aussi provoquer une résistance.
Et qui peut provoquer quelques effets secondaires, encore que c'est un produit qu'on prend par voie orale et que les effets secondaires ont été constatés quand on le prenait l'estomac vide. Mais si on le prend en mangeant, ça ne donne pratiquement plus d'effets secondaires. Et le problème des résistances, c'est un peu comme les antibiotiques. Là, c'est pour le cas, c'est comme la pénicilline. Mais est-ce que vous pensez qu'on n'aurait jamais dû utiliser la pénicilline parce que ça risquait de provoquer des résistances? C'est un cercle vicieux.
Donc il faut l'utiliser à bon escient.
Il faut l'utiliser. Voilà. Si ça provoque des résistances, peut-être, on verra, mais on aura en tout cas soigné des gens.
La mutation, ce virus, il peut muter à tout moment, ou bien, comme certaines études l'ont suggéré, il ne va pas muter cette année. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Pour qu'il mute sur le plan antigénique, c'est-à-dire vaccin, il faut plusieurs années. En 1968, le vaccin a été valable jusqu'en 1972, 4 ans. Au bout de 4 ans, la souche England 72 commençait à varier un petit peu. Donc, pour plusieurs années, le vaccin, on est tranquille de ce côté-là. Maintenant, il peut varier sur d'autres éléments. Il peut varier sur la virulence. Alors qu'il est peu virulent, oui. Il peut devenir virulent. C'est ce qu'on craint. Ça serait la pire des hypothèses. C'est ce qui s'est passé en 1918. 1918, la vague d'été a été bénigne. En 68 aussi. Et c'est l'hiver suivant qu'on a observé l'épidémie grave.
À la fin de votre livre, vous ouvrez quand même une piste en disant que des vaccins, on peut peut-être faire du progrès.
Bien moi, ce que j'aimerais, j'ai d'ailleurs un peu travaillé là-dessus, et je suis sûr que c'est possible, mais on n'en a pas assez travaillé, c'est d'obtenir un vaccin qu'on puisse utiliser par voie locale, avec des gouttes dans le nez, et je suis sûr que c'est possible. Il y a déjà des vaccins qui sont utilisés comme ça, qui sont des vaccins vivants, qui ont quelques autres inconvénients. Les Américains utilisent déjà un vaccin vivant, comme le vaccin poliomyélite, un vaccin qui est atténué mais qui est vivant. On le met dans le nez, ça donne une petite infection qui protège. Mais on n'a pas assez de garanties sur l'utilisation de ce vaccin vivant chez des gens fragiles. Donc il n'est pas encore autorisé en Europe. Mais l'utilisation de vaccins inactivés par voie nasale serait un grand progrès, parce que ce qui est gênant quand même, c'est l'aiguille. Et je suppose qu'un certain nombre de gens ne veulent pas se vacciner parce qu'ils ont peur d'avoir mal.
À suivre. Professeur Hanoun, merci pour tous ces renseignements, pour toutes ces questions et donc toute une histoire à lire, Caroline.
À lire absolument, La grippe ennemie intime, sous-titré Itinéraire d'un virologue, et c'est paru aux éditions Ballan. Merci Claude Hanoun.
Merci à vous.
Des thèmes que vous retrouvez évidemment aussi dans l'émission Priorité Santé sur RFI. Micro-méga, je vous rappelle que c'est sur www.rfi.fr et également sur Facebook avec vos questions et vos remarques. Nous revenons dans quelques instants avec notre invité multifacette. À tout de suite.